Des amours malades, chapitre 27. Il était minuit passé, mais j'avais décidé de me rendre immédiatement chez Hélène. Après le départ de mes amis et de Lily, j'avais déclaré à Laurent que si je n'allais pas parler immédiatement à cette femme que j'aimais tant, je n'aurais pas retrouvé plus tard le courage nécessaire pour me présenter à elle de nouveau. Laurent me poussa presque dehors. Arrivé devant la porte d'Hélène, j'hésitais. Je me conduisais comme un fou furieux. Je ne l'avais pas appelée pour la prévenir de mon arrivée, j'étais partie sans réfléchir, j'allais l'apeurer. J'étais venue pour donner une explication rationnelle à ma fuite de la veille, et mon comportement de ce jour semblait encore plus démentiel que celui du jour précédent. Puis mon doigt, comme s'il avait été indépendant, pressa la sonnette avant même que j'aie résolu si je devais ou non rester. La lumière au-dessus de la porte s'alluma, et la voix d'Hélène me parvint dans l'interphone. « Oui ?» Son ton, bien qu'assuré, marquait l'étonnement. Alexandre Mouret. « Grand Dieu, Alexandre, mais que se passe-t-il? Vous m'avez fait une de ces peurs ?»« J'arrive. » Le patron vint ouvrir la porte en pyjama. Un pyjama gris perle au tissu molletonné. Elle m'observa un instant avec un air mi-inquiet, mi-surpris. Puis, rassurée par mon calme, elle s'effaça pour me permettre d'entrer. Elle referma la porte avec lenteur, puis se retourna fixant sur moi ses yeux doux. « Je suis navrée de vous avoir inquiété. Je voulais à tout prix vous parler. » « À cette heure ?» Le ton marquait l'incrédulité, pas le reproche. « Hélène, j'aimerais vous expliquer. Oh, Hélène, je t'aime. Je t'aime, mais je ne sais pas te le dire. Je t'aime et je suis terrifiée par mes sentiments. Je t'aime, mais je ne peux rien te demander tant que je n'aurai pas dit certaines choses. Ces choses, si je ne te les dis pas maintenant, je ne le ferai plus jamais, et alors je te perdrai, j'en suis sûre. Hélène, peux-tu m'écouter, s'il te plaît ?» J'avais saisi ses mains dans les miennes et les secouées comme un enfant qui tire la main d'une grande personne pour la forcer à le regarder et à le suivre afin de lui montrer quelque chose d'important. Hélène se libéra doucement, m'effleura une joue de sa paume, puis « Allons dans le salon. »« Non, viens. » Je pris la main qui m'avait caressée puis conduisis Hélène jusqu'à sa chambre. Arrivée sur le seuil, je contemplai le lit défait, les draps immaculés dont la dentelle anglaise reposait sur une couverture bleu pâle, le couvre-lit épais replié diligemment sur un fauteuil et la lampe de chevet restée allumée. Hélène attendait à côté de moi sans bouger. Elle n'osait pas me regarder et fixait elle aussi sa couche abandonnée. « Va, va t'étendre. » Hélène leva enfin les yeux sur moi. « Alexandre, commença-t-elle d'une voix hésitante, tu n'es pas obligé de... » Elle laissa sa phrase en suspens. « Ma chérie, je n'ai aucune intention de... » déclarai-je sûre de moi cette fois. « Je ne comprends pas. » Hélène semblait perdue. Un homme amoureux d'elle, impuissant, qu'elle avait planté sans aucune explication le jour précédent, se représentait à minuit, désirait de parler, puis l'emmenait dans sa propre chambre et lui demandait de s'allonger, tout en l'assurant qu'il n'avait aucune intention de coucher avec elle. Il y avait de quoi décontenter la femme la plus équilibrée de ce monde. « Va te coucher. Je te rejoins tout de suite. » Hélène ne posa plus de questions et s'enfila sous les draps qu'elle releva jusque sous son menton. Son regard ne me quittait pas. Je lui tournai le dos, puis commençai à me dévêtir. Lorsque je fus torse nu, je l'entendis étouffer un cri. Je ne gardais que mon slip et me tournai enfin vers elle. « Hélène, n'aie pas peur. Je ne suis pas devenue fou. Je t'ai déjà dit combien je t'aimais. Mais si toi aussi tu dois m'aimer, alors il faut que tu saches qui je suis vraiment. Nous pouvons commencer par mon corps. Je n'en suis pas particulièrement fière. Je ne sais ce qui peut t'épouvanter le plus, Hélène. Ma maigreur, mon dos déchiqueté, mes côtes brisées, ma hanche pleine de clous, mes avant-bras labourés, ma poitrine transpercée. Heureusement que tu ne peux pas voir dans ma cervelle. Là, c'est pire. Alexandre, ton physique ne m'intéresse pas. » Hélène paraissait au bord des larmes et je m'en voulais terriblement. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je l'espère bien, sinon je n'aurais pas beaucoup de chance. Michael un jour m'a dit que mon charme ne résidait pas dans mon physique. Le docteur Conrad est un homme très avisé. Hélène, je ne t'ai pas fait un striptease pour te séduire. Ces cicatrices que tu vois, dis-je en passant lentement ma main sur mon corps martyrisé, sont l'œuvre d'une seule personne, ma femme. Alexandre ! Je soulevai les draps, m'enfilai délicatement auprès d'elle et lui ôtai avec tendresse cette main dont je baisai la paume. Je m'allongeai à côté d'elle, passai un bras sous ses épaules et installai sa tête sur ma poitrine. J'embrassai ses courtes boucles grises, puis je commençai. Léa, ma femme, ma magnifique épouse, la mère de mon unique enfant, Léa, bijoutière très connue et très appréciée par la haute société parisienne, m'a battue, insultée, martyrisée de cent façons et cependant 17 ans. Je continuai pendant des heures, racontant à Hélène ce que j'avais déjà révélé à Michael. Je n'omis rien cette fois. Je livrai tous mes secrets, mes états d'âme. Hélène m'écouta sans jamais intervenir. Je l'entendis gémir. Je la vis se mordre les mains, me regarder avec tendresse, avec effroi, et je la vis pleurer. Mais je n'interrompis pas mon récit. À 6 heures du matin, je me tus. Ma voix était devenue rauque à force de paroles, de larmes contenues et d'angoisses maîtrisées avec difficulté. Hélène se serra plus fort contre moi sans rien dire. Puis elle se redressa, me contempla et, après avoir embrassé tout ce qu'elle pouvait de mon visage, elle me sourit enfin. « Tu sais ce que j'aimerais maintenant ?» me demanda-t-elle après s'être éclaircie la voix. « Un café. Tu crois que tu pourrais nous en préparer un ? J'ai un percolateur qui en fait d'excellents. Tu n'as pas envie d'un café, toi ? J'ai toujours envie d'un café. Alors viens. » Hélène se jeta au bas du lit et enfila ses pantoufles. Je quittai les draps en frissonnant. Je me saisis de ce que je croyais être un peignoir abandonné sur le bras du fauteuil et l'enfilai. Il s'agissait en fait d'une robe de chambre en laine des Pyrénées. Nous nous rendîmes à la cuisine et je me mis à préparer les cafés. « On en mettrait deux comme toi là-dedans, » me fit remarquer Hélène en riant. « Tu n'as pas besoin de deux types comme moi. Un seul te suffira largement, j'en ai peur. Et toi, tu devras accepter d'en avoir une seule pour le poids de deux. J'adore les bonnes affaires. » Je songeais brusquement au corps parfait de Léa, à peine voilée par de coûteux dessous de soie. Je serrai contre moi la lourde robe de chambre et je bénis la laine des Pyrénées, les pyjamas molletonnés gris perle et les rondeurs accueillantes d'Hélène. Je lui tendis une tasse et nous bûmes en silence, les yeux dans les yeux. Ma compagne frissonna en reposant sa soucoupe sur la table. Je m'approchai d'elle et la serrai contre moi. « Tu as froid et tu es épuisée, mon ange. Tout cela est de ma faute. Je n'ai pensé qu'à moi, qu'à soulager mon cœur et mon âme sans te demander ton avis. Je suis... Tu es incorrigible, Alexandre. Tu as passé ta vie à penser aux autres, à exécuter et à pardonner leurs erreurs, oubliant qui tu étais, ce que tu voulais, oubliant de vivre. Tout cela est fini. Je n'entends pas juger ta femme. Ce qu'elle a fait est fait. Personne ne pourra l'effacer. Avait-elle des circonstances atténuantes pour t'imposer une telle vie? Une enfance difficile, des parents violents, un caractère dominateur qui n'a pas supporté qu'un jour tu prennes ton essor, une grossesse non désirée qui a entraîné une dépression postpartum aux multiples facettes, un anévrisme qui pouvait depuis des années donner des troubles psychiques, une maladie psychiatrique jamais identifiée? Si tu en as le désir, tu pourras toujours trouver des excuses à Léa et t'attribuer tous les torts de ce monde. Je ne suis pas psychiatre, et ce n'est pas moi qui réussirai à te libérer des uns ou des autres. Mais ce que je peux faire, Alexandre, c'est t'empêcher de continuer à te détruire, à endosser les fautes du monde entier, et à te réapprendre à aimer, et à te laisser aimer, à remplir ce néant que, pour une raison ou pour une autre, ta femme a provoqué. Quelqu'un d'autre que moi devra t'aider à y voir clair et à trier tous tes sentiments. Mais moi, je serai à tes côtés, tu peux en être certain. J'aimerais toutefois que tu commences par ne plus t'excuser pour tout et pour rien. Je t'ai ouvert la porte, Alexandre. Tu ne l'as pas enfoncée. Je suis épuisée, certes, mais si ce que tu avais à me dire ne m'intéressait pas, je me serais endormie. Je t'aime, Alexandre, et j'ai l'intention que cela dure un bon moment. Il te faudra des trésors de patience. Je ne voudrais pas te sembler prétentieuse, mais je pense être munie d'une certaine dose de patience. Je le sais, Hélène, je la connais, ta patience. Que dirais-tu d'aller faire reposer nos vieilles carcasses? Tomber amoureux à notre âge semble plus épuisant qu'à 20 ans, mais pas moins fascinant. Au contraire, nous dormîmes jusqu'à midi dans les bras l'un de l'autre. Puis nous nous hâtâmes pour rejoindre Laurent, Lily, Quentin, ainsi que Michael et Philippe dans un restaurant de Roanne où nous nous étions donné rendez-vous la veille au soir. Je proposai à Hélène de m'accompagner. Une espèce de présentation officielle, me taquina-t-elle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous arrivâmes alors que tout le monde était déjà installé. Je fis les présentations rapidement. « Docteur Conrad, je vous en supplie, appelez-moi Hélène et tutoyez-moi, sans quoi j'aurai l'impression de me trouver à la tête de la visite, » implora Hélène, alors qu'elle prenait place à côté de Michael. « Vos désirs sont des ordres, madame. »« Tu es docteur aussi ?» demanda Quentin, une moue aux lèvres. Qu'il adresse sa parole à Hélène était en soi un miracle. « Tout à fait. » « Encore une. Un jour, il y a une doctoresse qui est venue à la maison. Elle était très belle. » Mais elle m'a fait drôle. Toi, tu n'es pas belle, mais tu ne me fais pas drôle. C'est toi, Hélène, qui lors d'un bal prenait la sincérité dans tous les cas, demanda Michael en pouffant. J'ai dû dire une ânerie de ce genre, répondit Hélène à un large sourire aux lèvres. Tu es gentille, reprit Quentin imperturbable. Tu soignes quoi? Grand-pa, il soigne le ventre et l'estomac. Philippe, il soigne les enfants. Et Michael, les choses très graves. Et toi?
Le cœur, Quentin.
Moi, je soignais le cœur, fit Hélène en posant une main sur ma poitrine.
Oh!
Quentin paraissait très impressionné.
Mon papa, lui, il ne soigne personne, mais il fait des bijoux fantastiques, voulut préciser le petit qui marqua chaque syllabe avec un mouvement de son index tendu.
C'est un très beau métier.
Oui, et Lily, elle apprend aux enfants à...
Qu'est-ce que j'apprends aux enfants, voyons un peu, petit diablotin, demanda Lily en riant.
À être content, s'exclama mon petit-fils triomphant.
Lily le regarda un instant muette de surprise, puis se leva, le souleva de sa chaise et l'embrassa furieusement, puis avec l'enfant encore dans ses bras. Quentin Mouret, tu es l'homme le plus beau, le plus intelligent, le plus parfait de cette tablée, et je t'adore.
Plus que papa?
Ton papa est hors concours.
Ça veut dire quoi?
Qu'elle est amoureuse, souffla Michael. Je dus expliquer à Hélène le pourquoi de l'accès d'hilarité qui suivit.